France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Mi-essai, mi-bande dessinée, comme la volonté affichée, revendiquée même dans la forme que porte ce nouvel ouvrage, de casser les frontières. Frontières entre nature et culture, entre humains et non-humains, entre animaux et plantes, entre social et politique. Perspective terrestre, scénario pour une émancipation écologiste. Tel est le titre du nouvel ouvrage d'Alessandro Panpignocchi qui paraît aux éditions du Seuil. Bonsoir Alessandro Panpignocchi.
Bonsoir.
Et pour entrer de plein pied dans ce livre, dans cette bande dessinée, je suis accompagné de Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que vous êtes directeur des rédactions de la revue Le 1. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
En fait, c'est une proposition de loi déposée simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'agit pour nous de reconnaître l'intérêt public majeur de cette autoroute. L'objectif pour nous, c'est d'essayer de faire de telle sorte que ce texte puisse être adopté par le Sénat, mais avec un objectif, c'est de pouvoir avancer. Et donc, dans ce cadre-là, permettre le redémarrage du chantier.
Moi, je débarquais à la Crémarbre, c'est un lieu différent de la Calarbre, pour rencontrer les copains de la nature qui prennent les oiseaux, les salamandres, les scarabées. Tout ça, ils le prennent en photo pour prouver l'existence de ces espèces et ensuite peut-être espérer les sauver. Donc c'est notre ignorance, c'est parce qu'on décide d'ignorer leur existence que ces espèces disparaissent. Et ça, c'est vraiment dramatique en fait.
Et l'on rappelle que la décision du tribunal administratif de Toulouse avait ordonné en février dernier l'arrêt du chantier de l'autoroute Castres-Toulouse, l'autoroute A69, contestée par des mouvements écologistes. On a appris cet après-midi qu'une proposition de loi viserait à reprendre les travaux. Ce texte arriverait au Sénat le 15 mai prochain. Alessandro Panpignocchi, qu'est-ce que cette histoire, cette polémique, ces mouvements aussi racontent peut-être d'une vision que l'on a en commun quant à l'émancipation écologiste?
Je ne sais pas si on a encore cette vision en commun, c'est l'objet de mon livre de contribuer à la construire, mais en tout cas l'ampleur de cette lutte territoriale, comme tant d'autres en France, dit quelque chose de la politique et de l'écologie. Les luttes territoriales sont un des moteurs principaux de la reconfiguration des antagonismes politiques qui nous travaillent et... À mon avis, pour le mieux, c'est la façon la plus efficace de saisir la question écologique, parce qu'elle les luttes territoriales permettent de saisir les problèmes écologiques par les affects, par les attachements au territoire, par une série de désirs, d'envie d'habiter le monde extrêmement concret et donc beaucoup plus efficace politiquement que si on essaye de l'attraper par le haut, par le CO2, l'effet de serre et des questions plus abstraites qui sont évidemment tout aussi fondamentales mais qui tapent dans nos affects humains de façon beaucoup moins efficace que le territoire, l'attachement au territoire, l'attachement au vivant, et qui donc auront plus de mal à faire mouvement sur la durée et à composer une proposition écologiste concrète. Quoi.
Vous voulez dire que ce combat, c'est pas juste s'opposer à une autoroute et même d'une façon plus générale au progrès et à la modernité, c'est d'abord se battre pour un attachement à un territoire, à une certaine vision aussi d'un territoire?
C'est quasiment deux visions de l'humain et de à quoi devrait ressembler, à quoi on a envie que l'humanité ressemble dans les décennies à venir. C'est les luttes territoriales ont cette vertu de clarifier les antagonismes politiques. On sort des enjeux abstraits, des antagonismes qui se sont construits petit à petit les uns sur les autres au fil de l'histoire des affrontements politiques pour revenir à des questions vraiment très fondamentales de comment on a envie d'habiter en commun un territoire. Et là, du coup, c'est vraiment deux mondes, deux visions de l'avenir, deux régimes de désir, deux ensembles d'envie pour l'avenir qui s'affrontent de façon très épurée. C'est une des vertus des luttes territoriales, c'est que c'est un opérateur de clarification politique. Ça clarifie les positions. Donc là, d'un côté, on a sur la 69 comme sur toutes les autres luttes territoriales, qu'on veuille agrandir des ports, poser des creuser des nouvelles lignes à grande vitesse, enfin tout ce qui, on a la volonté de continuer à alimenter l'augmentation des flux de marchandises, en gros quoi, et augmenter les flux, continuer, maintenir la courbe d'augmentation des flux, c'est la condition pour maintenir en gros le capitalisme en place, et donc l'ensemble du système de domination et du système de privilèges qu'il sous-tend. Donc on comprend bien que il y a une élite politique et économique joue son existence et ses privilèges dans le maintien de
pas seulement une élite, des élus locaux aussi, des associations économiques et des acteurs locaux. D'autres acteurs locaux sont pour cette
autoroute. Bien sûr, non, mais après les antagonismes politiques sont pas encore complètement clarifiés, mais en tout cas ceux qui ont un intérêt immédiat évident à l'entretien au maintien des flux à moyen terme, disons, c'est l'ensemble l'ensemble de la classe ultra dominante dont le choix par défaut a été de maintenir le système de domination dont elle bénéficie pour échapper aux effets de la crise écologique un peu plus longtemps que les autres en tirant profit de ses privilèges économiques et politiques, quitte à aggraver les effets de la crise écologique par ailleurs, quoi.
Question de Julien Bisson qui a beaucoup rigolé, je crois, en lisant votre livre.
Oui, parce qu'il y a des pages de bande dessinée qui sont très drôles, notamment. Vous avez employé le mot d'affect, Alessandro Pignocchi. Vous écrivez ceci dans votre essai: des affects terrestres hantent notre modernité et forcent ses coutures. Peut-être pour bien comprendre, qu'est-ce que vous appelez affect terrestre, et puis essayer de comprendre quelles sont ces coutures de la modernité que ces affects viennent forcer.
Bon, c'est une hypothèse, hein. C'est l'hypothèse que j'essaye de mettre en avant. Et peut-être, avant de répondre complètement, je reviens sur pourquoi c'est essentiel de parler d'affect, à mon avis. C'est que face à nous, on a le maintien comme option, en gros, on a le maintien du capitalisme, donc par des projets comme la 69 et l'entretien des flux de marchandises, donc avec tous les désastres sociaux et écologiques qu'on connaît désormais, et un projet réactionnaire fasciste qui est en train de s'installer à l'échelle mondiale, quoi, cette espèce de vague fasciste terrifiante qui est en train de prendre forme. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est des projets politiques qui parlent aux affects les plus élémentaires de l'espèce humaine, quoi. Donc le capitalisme, on sait comment il nous tient par les corps, par des désirs de consommation, des désirs de puissance. Et en face, le projet fasciste vient ajouter un affect, encore une fois, qui est bien connu, qui est extrêmement primaire, qui en gros repose sur le plaisir que l'on retire à voir ceux qu'on a construits, qu'on nous a appris à considérer comme une minorité menaçante, s'en prendre plein la gueule, quoi. En gros, voir l'autre se faire martyriser par les puissants, quoi. Donc à une époque, le juif, aujourd'hui le musulman, de plus en plus l'écologiste, le féministe, le trans, enfin, on construit un autre, une minorité menaçante, et on la défonce, et la joie que retire une partie de la population à voir cette minorité se faire défoncer, et alimente, malheureusement c'est un affect extrêmement puissant, quoi. On le sait, les sciences cognitives le confirment, ça se met en place très tôt, voir celui que l'on considère comme l'autre, comme le rival, se faire martyriser, ça procure du plaisir. Et donc, quand on a face à soi des projets politique qui capture nos affects de façon si fondamentale, on ne peut répondre que sur ce terrain-là. Évidemment qu'il faut continuer à démonter rationnellement ces projets-là, à fonder en raison leurs critiques, mais il faut aussi une alternative qui soit capable de saisir des affects humains. Et mon hypothèse, c'est que...
Je me permets juste de dire une chose, il y a beaucoup de sociologues américains qui ont démontré notamment que l'un des échecs de la campagne des démocrates, notamment face à Donald Trump, ça avait été l'incapacité à mobiliser ce type d'affect, à parler uniquement en politique publique, en statistiques, en chiffres froids qui ne mobilisaient pas peut-être les tripes et plus que cela.
Exactement. Et quand on dit mobiliser les tripes, on a l'impression qu'on doit faire de la manipulation de masse, mais c'est pas ça. C'est proposer un projet politique qui active des désirs, basiquement, quoi, qui active des envies, qui ne soient pas seulement fondées en raison. Et donc, l'hypothèse générale que je propose dans ce livre, c'est que le secret, quoi, la clé, la trappe affective qu'il s'agit d'ouvrir, tient à nos attachements au vivant et au territoire, au tissu de liens affectifs, d'attachement qu'on peut tisser avec un milieu de vie, un territoire vivant. Et en fait, un des arguments, c'est dire que ces attachements-là ont été fondamentaux dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que montre par exemple le dernier livre de Charles Stepanov qui s'appelle basiquement Attachement. Et l'humanité depuis des centaines de milliers d'années, c'est construit autour de ces liens d'attachement, et la modernité les a effacés. Elle a proposé une conception du progrès où ces attachements au territoire, au milieu de vie, et à l'ensemble des vivants humains et non humains qui les habitent ont été écartés comme de la sensiblerie, des entraves au progrès. Il fallait créer des individus purement déterritorialisés, des êtres de consommation pure. Et donc l'idée, c'est que des affects qui ont été aussi fondamentaux dans l'histoire de l'humanité et aussi parfaitement effacés pendant les deux derniers siècles, il doit y avoir une puissance politique dormante là-dedans. Il y a quelque chose à activer. Il y a un projet politique qui proposerait de réouvrir cette trappe pulsionnelle, doit pouvoir laisser s'écouler un mouvement collectif. Et là, il y a des possibilités de joie que malheureusement, on a en grande partie oubliées et qui sont assez difficiles à anticiper. Mais, et je retombe sur les luttes territoriales, c'est des contextes où on redécouvre ces joies-là, où l'attachement à un lieu, la volonté de tout donner pour le défendre, parce que ce territoire, désormais, n'est pas juste, encore une fois, un havre de biodiversité, mais nous compose. On a appris à notre personne se trouve liée, c'est évidemment ce que beaucoup de gens ont vécu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et sur de nombreuses autres ZAD. Et donc là, voilà, c'est ça l'hypothèse, c'est qu'il y a une force pulsionnelle, affective, sur laquelle un mouvement écologiste puissant doit pouvoir jouer.
Vous l'avez invoqué, Alessandro Pignocchi, alors on va l'entendre. Charles Stepanov, il était dans la suite, dans les idées, le 19 septembre dernier.
C'est avec ce grand récit qu'on explique à la fois l'avènement de l'anthropocène et des sociétés inégalitaires. Ce récit, il nous dit que d'abord les humains vivaient dans des sociétés égalitaires, les chasseurs-cueilleurs, dans une relation de partenariat et de réciprocité avec leur environnement. Ils reconnaissaient des alter-égos dans les plantes et dans les animaux. Et puis, ils ont changé d'attitude au moment de la révolution néolithique. Ils ont adopté une attitude beaucoup plus agressive. C'est le terme de Gordon Childe, le préhistorien qui a introduit cette notion de révolution néolithique. Une position agressive de domination, d'asservissement, à partir de laquelle nous avons créé des races animales et des variétés, des cultivars végétaux nouveaux qui étaient notre œuvre et qui étaient soumis à notre domination. Et cette relation de domination avec la nature, on l'aurait projetée à l'intérieur même des sociétés humaines en faisant apparaître des États, des rois, de l'esclavage. Toutes les formes de tyrannie, de despotisme, de domination seraient dérivées de cette domestication. Donc c'est fondamental dans notre compréhension même de l'histoire de l'humanité.
Des propos qui résonnent très très fortement, très vivement avec perspective terrestre. Julien Bisson.
Oui, ce mythe de la rupture, on a tous plus ou moins appris que cette néolithique, avec l'arrivée de l'agriculture, l'arrivée de la domestication, qu'il y aurait une rupture dans notre rapport anthropologique au monde. Pourquoi est-ce que c'est un mythe selon vous et comment est-ce qu'on peut s'y naviguer aujourd'hui ?
Heureusement que c'est un mythe. C'est un mythe parce qu'il est tout simplement frontalement contredit par les données anthropologiques et archéologiques. Et Charles Stepanov n'est pas le seul à le démonter. Il y a eu le chef-d'œuvre de David Graeber et David Wengrow quelques mois plus tôt qui faisaient de même et qui montrent qu'il y a que la domestication et agriculture ne sont absolument pas synonymes de domination à outrance et d'exploitation. Enfin, l'exploitation ne naît absolument pas avec déjà, il n'y a pas, j'allais dire, avec la révolution agricole, mais il n'y a pas de révolution agricole, vu que pendant 3000 ans, il y a des formes d'horticulture, d'agriculture ont cohabité avec des formes de chasse, de cueillette. Enfin, les systèmes sont beaucoup plus enchevêtrés. Il n'y a pas chasseur-cueilleur et d'un coup, on devient agriculteur. C'est pas du tout ça. Et encore aujourd'hui, il y a plein de collectifs humains dont l'économie repose sur des formes hybrides entre domestication, sauvage. Enfin, il n'y a pas du tout cette frontière-là qui s'est mise en place à la fin du néolithique. Et heureusement, parce que si le projet politique que je propose repose sur la réactivation des liens d'attachement aux non-humains. Si ces liens d'attachement étaient impossibles à vivre dans un système où il existe la domestication animale et l'agriculture, on serait mal parti. Ça voudrait dire qu'on devrait tous redevenir chasseurs-cueilleurs, mais c'est absolument pas le cas. Le problème est tient aux formes d'agriculture moderne, industrialiste, etc. Mais des formes d'élevage, des formes de chasse évidemment, de cueillette et des formes agricoles qui reposent sur un attachement affectif extrêmement fort aux non-humains et une attribution d'agentivité. Enfin, l'agriculture, encore une fois, pendant des millénaires, et l'élevage ont reposé sur l'enchevêtrement entre l'intentionnalité humaine et les désirs animaux et les agentivités végétales. C'est ce que montre très bien Stepanov. Et donc, c'est dans ces formes-là que je prétends réside des formes de joie, d'intensité d'existence, des possibilités, des affects que l'esprit humain peut sécréter, possède en puissance et qu'on a largement oublié et qu'il y a une possibilité de réactiver sous des formes nouvelles. Évidemment, il ne s'agit pas de revenir à des systèmes agricoles du passé, mais en tout cas, il y a là une matière affective à travailler.
ce rapport de sociabilité avec les non-humains. Est-ce que c'est simplement justement une dimension agricole ou est-ce que c'est une question qui nous concerne tous et toutes ?
Le lien affectif dans la modernité a été réduit à le lien affectif au non-humain, à une forme extrêmement appauvrie et cantonnée à l'animal domestique, en gros, quoi. C'est là qu'on relâche tous nos affects d'attachement au non-humain, mais par contre en épurant de toute la dimension liée à la subsistance, à la matérialité. Le projet politique qu'on propose là, c'est de réenchevêtrer ces deux dimensions, réenchevêtrer la subsistance et la tâche affective. Alors que dans la modernité, c'est complètement séparé. On a les animaux matières qui sont purement exploités, qui n'ont aucune intériorité, et les animaux enfants, les animaux domestiques, là c'est une distinction de Stepanov, encore une fois, avec lesquels on a une relation entièrement affective. Et donc l'idée, c'est que la richesse relationnelle tient au réenchevêtrement de des dimensions métaboliques, de la subsistance, notamment alimentaire, et de l'ensemble des attaches affectives. Et donc le pas suivant que je propose dans le livre, c'est de dire bon, pour mettre ça en œuvre concrètement, parce que sinon on reste dans le registre abstrait, il faut reprendre des territoires. C'est vraiment en reprenant du pouvoir politique des marges de manœuvre territoriales, en se rendant capable, en acquérant une puissance, une force politique qui nous permette de décider de la manière dont on gère les activités de subsistance et en premier lieu les activités paysannes sur les territoires, qu'on pourra libérer ces affects-là, quoi.
Je reste un instant tout de même, Alessandro Pinocchi, sur la dimension théorique. Est-ce que pour vous, la notion très en vogue en ce moment, on le voit bien dans les publications, on le voit bien aussi peut-être dans les conférences, dans le discours militant, la notion de vivant est une bonne notion pour appréhender les enjeux que vous mettez en exergue, les enjeux notamment qui visent à tisser des liens avec l'ensemble des non-humains qui nous entourent et des animaux, pour le dire d'une manière peut-être plus directe. Est-ce que cette notion de vivant est utile, opérante, où elle oublie peut-être, en créant une continuité entre les non-humains et les humains, peut-être la hiérarchie qui existe souvent entre les deux, et donc elle oublie en partie cette idée de spécisme.
Non, ça a l'air efficace, le concept de vivant. C'est pas là pour l'instant, le danger, c'est pas tellement d'oublier la hiérarchie, mais de lui prêter trop d'importance. La question n'est pas d'abord sur... La question de la hiérarchie n'est pas vraiment pertinente. Encore une fois, si on parle de libérer des potentialités affectives, des potentialités d'attachement, le concept de vivant a l'air plutôt efficace. Et la preuve empirique, c'est le succès en librairie de tous les livres qui traitent du vivant. Il y a une espèce de vague éditoriale autour de cette question-là. Alors, il y a une accusation en retour d'une partie de la gauche qui dit « Mais oui, mais c'est un affect purement bourgeois, s'intéresser au vivant, ça nous détourne des vrais enjeux de la lutte des classes », ce qui est une critique pas entièrement infondée, mais qui rate la puissance politique du concept. Et je consacre un chapitre du livre à montrer que, même s'ils sont pas nommés à tâche affective au vivant, mais c'est des affects qui traversent évidemment toute une partie des classes populaires. Et le fait que ça parle, que le concept de vivant parle à la petite bourgeoisie culturelle, dont font partie sans doute la très grande majorité des auditeurs de cette émission, c'est très bien. Radicaliser la petite bourgeoisie culturelle est un projet politique. Alors, ça ne suffira pas, mais radicaliser la petite bourgeoisie culturelle et tisser des liens avec des franges des classes populaires, c'est les deux ingrédients de base d'un projet authentiquement révolutionnaire. Enfin, c'est quand même cette entente-là. Et si le concept du vivant correctement manié permet cette alliance-là, très bien. Et a priori, il semble avoir des vertus pour y parvenir, quoi.
Alors, je précise quand même que, contrairement à ce qu'on croit parfois, il n'y a pas que la petite bourgeoisie culturelle qui
est en majorité.
Culture, bien sûr, non, mais je le précise pas par ailleurs. Julien Bisson.
Cette question, cette dimension territoriale que vous évoquez précédemment, ça nous ramène aussi à la question du local. Le local est souvent vu comme une notion qui peut être réactionnaire. Est-ce que dans la construction que vous êtes en train de faire, on peut sortir justement de ce prisme réactionnaire dès lors qu'on aborde la question du local?
C'est fondamental. La notion de perspective terrestre que je propose se définit d'abord sur la base d'une conception renouvelée du local, vu qu'évidemment ces attaches affectives dont je prétends qu'elles recèlent une puissance révolutionnaire ne peuvent s'exprimer que à l'échelle locale, évidemment, quoi. Et de fait, c'est ça peut-être le déplacement fondamental qu'on propose aux forces émancipatrices de gauche, c'est de qui ont rejeté massivement le local comme quelque chose qui n'engendre que des affects réactionnaires, de dire non, en fait, il y a une conception du local qui n'est absolument pas réactionnaire, qui est authentiquement progressiste, et pour distinguer les deux, c'est extrêmement simple. C'est que les liens au local qui sont glorifiés par les retours en force des projets fascistes aujourd'hui et qui ont toujours été glorifiés par les projets réactionnaires, c'est des liens qu'on ne peut pas s'approprier. C'est l'histoire, le sang, les ancêtres, l'histoire commune, la langue parfois, c'est-à-dire des liens où si on n'est pas né avec, on ne peut pas les acquérir. Donc c'est des liens dont la fonction fondamentale est d'exclure l'étranger. C'est ces liens-là qui font que un néo-rural, même après 20 ans dans un village, même si c'est lui qui contribue le plus à la dynamique du village, sera toujours appelé l'étranger. Et à l'inverse, les liens terrestres, enfin les liens qui sont que on ressent avec force dans les luttes territoriales, c'est des liens qu'on construit, qu'on tisse par les usages, par la pratique des communs, par la participation à l'autonomie territoriale, à l'autonomie alimentaire. C'est ce qu'on ressent quand on arrive sur une ZAD, en contribuant à un potager collectif, à un chantier. On se sent chez soi tout de suite. C'est des liens donc qui, à l'inverse des liens réactionnaires, visent à inclure, visent à faire collectif sur les pratiques, sur les usages, et non pas sur l'appartenance à une ethnie, au sang ou à une histoire commune.
Quoi. Donc les liens terrestres, c'est très 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 différent des liens à la terre tels qu'ils existent dans un imaginaire conservateur.
Sur le spectre des possibles, on est à l'exact opposé des liens maurassiens de retour à Oupéténis, de retour à la terre évidemment. Quoi.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'Emmanuel Coccia qui s'exprimait dans l'émission de France Inter, l'émission L'Heure Bleue, c'était le 3 janvier 2017.
Notre culture, dans les derniers deux siècles, s'est concentrée injustement sur l'âme et sur l'humain et a oublié tout ce que, par exemple, Bruno Latour appelle les non-humains, c'est-à-dire les animaux, les plantes, mais aussi les choses. Et cet oubli qui part aussi d'une série de choix d'ordre épistémologique et culturel est aussi renforcé par la très très mauvaise structure des universités aujourd'hui qui se basent sur une culture totalement dépassée et totalement fausse entre ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles. L'homme d'un côté et le reste. Mais on oublie que cette distinction, qui est fausse, qui est ridicule, qui est totalement insensée, non seulement définit la plupart des savoirs que nous avons sur le monde, mais définit aussi la structure ou l'architecture de ces savoirs et l'architecture pédagogique dans tout l'Occident, en fait.
Comment est-ce que, justement, cette distinction entre nature et culture, entre humain et non-humain, elle nous structure à tel point, notre imaginaire, notre philosophie, notre façon même de discuter, de faire des sciences sociales, d'être dans un environnement, comment est-ce qu'on la dépasse très concrètement? Est-ce que là aussi la situation se trouve dans les territoires et dans notre rapport au territoire?
C'est une piste, mais en tout cas le danger dans la façon dont ça vient d'être formulé, dont on vient de l'entendre, et qui en fait alimente et justifie en partie la critique qui est faite à tout ce courant de pensée qui prétend penser par de la nature et culture, et dans lequel je m'inscris, c'est qu'il y a certaines façons de le présenter, comme c'était le cas là, qui laissent entendre que le problème tient d'abord aux idées, qu'il va falloir reconfigurer notre façon de penser et qu'ensuite le reste suivra. Ça s'appelle de l'idéalisme, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et le verrou fondamental.
Les idées, c'est pas le point de départ.
C'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est une domination matérielle, économique. C'est que cette mise au travail et cette objectification massive des êtres de la nature, des vivants, c'est d'abord parce que ça soutient un système économique et un système de domination. Et s'il maintient en place, si on n'arrive pas à penser par de la nature et culture, c'est pas parce qu'on a des verrous mentaux. C'est d'abord parce qu'on est pris dans un système de domination dont les dominants ne sont pas prêts à laisser s'effilocher. Donc c'est d'abord c'est d'abord des questions de domination matérielle, mais évidemment la domination matérielle et les constructions théoriques se nourrissent l'une l'autre. Ça paraît, je consacre des pages là-dessus. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'écueil inverse et de dire les idées n'ont aucune importance. Les théories de justification viennent, et notamment la mise à distance et la transformation de l'ensemble, enfin déjà le concept de nature, c'est son objectification, la priver d'intériorité l'ensemble des vivants qui l'occupent. Toutes les théories qui sont venues construire cet édifice théorique venaient renforcer un édifice de domination matérielle et vice-versa. Les deux se nourrissent mutuellement. Donc, et dans les, encore une fois, c'est effectivement la lutte territoriale permet d'aborder les deux questions, celle des idées et celle de la matérialité de front. C'est d'un côté, on reprend en main notre subsistance, qui est la condition élémentaire pour espérer défaire, parce que le système de domination, le capitalisme, le système de domination dans lequel on est pris, repose sur la dépossession massive des moyens de subsistance. C'est la base de tout, c'est que les populations n'ont plus les moyens de se nourrir par elles-mêmes en dehors du marché. Donc le premier élément, c'est de reprendre en main notre subsistance. Cette reprise en main matérielle s'accompagne d'une reprise en main affective où on redécouvre la joie d'être autonome en termes de subsistance, d'être autonome en termes politiques et grâce à cette autonomie, de pouvoir laisser s'exprimer un ensemble de liens d'attachement, un ensemble d'idées, un ensemble de croyances, un ensemble de savoir-faire qui ont été massivement effacés par la modernité et les systèmes de domination qu'elle comporte.
Alessandro Pignocchi, vous signez Perspective terrestre, scénario pour une émancipation écologiste. Cela vient de paraître aux éditions du Seuil. Merci d'être venu dans Questions du soir. Et qu'est-ce que l'on trouve, Julien Bisson, cette semaine dans le 1 et dans la page que l'on peut déplier?
Eh bien, on reste dans des perspectives terrestres pour des perspectives souterraines, puisqu'on se penche sur les terres rares. C'est cet ensemble de minerais qui sont parfois ni terres ni rares. Pourquoi le monde se les arrache? Pourquoi ils font tourner notre modernité? Eh bien, vous allez tout savoir, dans une grande page qui va se déplier et tout vous expliquer sur ces terres rares.
Tout savoir grâce au 1 et à France Culture. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir dans Questions du soir.